avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.
Chers auditeurs de Radio Lapourdie, bonjour. L'actualité de cette période tourne autour, bien entendu, de la dissolution de l'Assemblée nationale, qui a été décidée le 9 juin par le président de la République, et sur l'avenir politique à court terme qui nous attend. Et pour en parler de manière sereine, d'un point de vue plus juridique que politique d'ailleurs, je souhaiterais m'appuyer sur une note très intéressante qui s'intitule précisément « Questions sur une dissolution » qui a été rédigée par Jean-Éric Schöttl, qui est l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire un des spécialistes, un des juristes de droit public et de droit constitutionnel les plus réputés. Dans un premier temps, dans cette note, M. Schöttl s'interroge finalement sur l'opportunité de cette dissolution et les motivations du président de la République. Bien entendu, l'article 12 de la Constitution est clair. La possibilité de dissoudre l'Assemblée est une prérogative du président de la République, après quelques consultations. Qui ne le lit d'ailleurs aucunement, et il faut simplement savoir que il ne peut être ensuite procédé à une nouvelle dissolution dans l'année qui suit les nouvelles élections. En attendant, la question que se pose M. Schöttl à juste titre, c'est tout simplement la suivante. Cette dissolution répond-elle à un calcul stratégique de la part du président de la République, auquel cas on essaiera de voir quelle est peut-être la stratégie qui l'a voulu mettre en œuvre, ou s'agit-il d'un coup de théâtre lié à son ego suite à une défaite aux européennes qu'il n'a pas finalement encaissée. Alors il est difficile d'y répondre. En attendant, les constats l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel est le suivant. Selon lui, d'un point de vue en tout cas politique, cette dissolution ne répond aucunement à une nécessité. Elle ne s'imposait pas, d'où la surprise de la plupart des commentateurs, en effet, dans la mesure où un désaveu infligé par l'électorat au président de la République pour une campagne qui est celle des européennes n'est pas effectivement directement corrélé, si on peut utiliser cette expression, au contexte politique national. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est de relever le délai extrêmement court qui va s'écouler entre le 9 juin, la dissolution, et les élections dont le premier tour sont le 30 juin. C'est-à-dire qu'il était impossible de faire plus court que les 21 jours qui sépare ces deux échéances, au regard en tout cas de l'article du code électoral qui régit cette question et la question des délais. Et des délais aussi précipités pour M. Schöttl soulèvent tout de même un certain nombre de questions assez sérieuses. Tout d'abord, écrit-il à juste titre, un si bref délai soulève des questions matérielles et organisationnelles, tant pour les formations politiques que pour le ministère de l'Intérieur et pour les communes, impression et envoi du matériel électoral, inscription sur les listes électorales des personnes qui, depuis peu, ont pu changer de commune de résidence, établissement des procurations, disponibilité des personnels, campagne audiovisuelle, etc., etc. Surtout, un délai aussi bref, écrit-il, ne permet pas aux formations politiques de se retourner. Il les contraint à la précipitation, que ce soit pour l'investiture de leurs candidats, pour leur campagne ou pour la préparation réfléchie de futures coalitions. Plonger ainsi les acteurs politiques dans l'improvisation n'est pas un service à rendre à la démocratie. Donc, premier point, effectivement, sur lequel on peut s'interroger, c'est la brièveté du délai décidé par le président de la République, qui aurait très bien pu laisser un délai supplémentaire. N'était-il pas au moins possible, écrit d'ailleurs ce monsieur Schottel, si dissolution il devait y avoir, de la décréter au début de l'année 2025, quitte à l'annoncer avant, en laissant le gouvernement actuel gérer les Jeux Olympiques et l'Assemblée actuelle voter les textes financiers de fin d'année, c'est-à-dire le budget. Et en effet, on peut considérer, avec cette note, que le moment de la dissolution est très inopportun. Parce que actuellement se joue, après les élections européennes, à Bruxelles, la répartition, la distribution des postes clés au sein de l'Union européenne, ainsi que la formation des groupes parlementaires et la composition de la nouvelle commission. Et puis, il y a bien sûr les Jeux olympiques qui arrivent. Et d'ailleurs, il faut savoir que après les élections des 30 juin et 7 juillet, la nouvelle assemblée se réunira en plein Jeux olympiques, ce qui peut très bien, en effet, ne pas être à l'avantage de l'image de notre pays sur la scène internationale, car tous les projecteurs du monde entier seront braqués sur Paris et sur la France. Plus intéressant peut-être, mais d'un point de vue toujours plutôt juridique et constitutionnel, quels sont les scénarios les plus plausibles concernant la recomposition prochaine de l'Assemblée? Alors il y a plusieurs scénarios possibles, bien sûr. Le premier qu'on peut retenir, une majorité absolue du Rassemblement national. Hypothèse plus crédible qu'une majorité absolue du Front populaire, si on en croit du moins les sondages. Dans ce cas de figure, deux possibilités. Soit le président de la République démissionne du fait de ce nouvel échec, entraînant par là même de nouvelles élections présidentielles, soit, plus vraisemblablement, s'instaure une cohabitation entre un Premier ministre issu du Rassemblement national, Jordan Bardella a priori, et le président de la République. Le problème dans ce cas de figure, pour le Rassemblement national, effectivement, c'est la marge de manœuvre dont il pourrait disposer. Monsieur Schottel écrit « Ce qu'il faut craindre de l'arrivée aux affaires du RN, c'est moins l'accomplissement d'un programme radical ou la remise en cause de l'état de droit que la paralysie et les désordres que susciterait son accession au pouvoir. » Et M. Schottel pointe du doigt les résistances et les blocages qui pourront être issus de l'administration, l'opposition des médias, des services publics, des troubles graves qui pourraient se produire, des émeutes urbaines dans les banlieues qui pourraient survenir, la réaction des marchés financiers, le problème des prêteurs internationaux au moment où nous sommes déjà dans une crise de la dette publique extrêmement préoccupante. Et d'autre part, d'un point de vue plus juridique, M. Schottel estime effectivement que le président de la République, dans le cas d'une cohabitation, disposerait de moyens tels que le gouvernement de M. Bardella ne pourrait pas finalement gouverner de manière efficace. Un gouvernement de cohabitation que dirigerait Jordan Bardella aurait toutes les peines du monde à gouverner, écrit-il. Pourquoi ? Parce que le président de la République a d'énormes pouvoirs pour gêner l'action de son Premier ministre. En effet, il peut refuser de signer les ordonnances. François Mitterrand l'avait fait à l'époque face à Jacques Chirac, qui était son Premier ministre. Il peut même refuser de signer en Conseil des ministres de simples décrets, qui ne sont pas des ordonnances, mais qui sont des décrets réglementaires ou individuels. Il peut, par ailleurs, imposer la maîtrise de l'ordre du jour du Conseil des ministres qu'il souhaite, pour retarder par exemple certaines nominations, l'examen de certains textes. Il peut saisir le Conseil constitutionnel ou demander une nouvelle délibération après le vote d'une loi. Il peut refuser de convoquer le Parlement en session extraordinaire, etc., etc. Un exemple très simple, le RN annonce qu'il souhaite remettre en cause certains traités internationaux Et M. Schottel écrit « Un gouvernement RN ne pourrait pas dénoncer contre la volonté du président de la République un accord international tel que l'accord franco-algérien du 27 décembre 68 sur la circulation et le séjour des ressortissants algériens, parce qu'il faudrait que ce décret soit approuvé et contresigné par le président de la République, ce qui ne sera certainement pas le cas. » Et puis, bien entendu, il y aurait l'opposition, pour des raisons de fond ou pour des raisons plus politiques, du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, du juge administratif, si vous préférez, mais aussi du juge judiciaire. Et on voit bien que le syndicat de la magistrature, qui prend position contre le RN, est très, très à gauche et donc certainement serait très tenté de désavouer sur le plan judiciaire les décisions prises par ce gouvernement. On peut également mentionner les menaces de sanctions européennes ou tout simplement les décisions de la Cour de l'Union européenne et de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais le scénario le plus vraisemblable me paraît être plutôt, ainsi qu'à M. Schottel, le suivant, l'absence de toute majorité absolue. Trois blocs à l'Assemblée, gauche, extrême gauche, centre et donc Rassemblement national avec quelques alliés, mais pas de majorité absolue, et dans ce cas-là, nous aurions une chambre ingouvernable et un pays ingouvernable, et il me semble qu'effectivement, en l'état actuel des choses et des sondages, c'est peut-être le scénario le plus probable, avec une conclusion qui s'impose. Si le pays devient ingouvernable, écrit M. Schottel, c'est le garant des institutions qui en portera la responsabilité. Celui qui entend personnifier l'alternative au chaos sera perçu comme un fauteur de chaos. Et je crains que ce soit effectivement une hypothèse tout à fait vraisemblable.
Pour entrer en contact avec l'Observatoire sociopolitique du diocèse de Bayonne, Lescarre et Oloron, 05 59 59 67 92.